Bonjour, ça va, on m'entend bien? Alors, est-ce que Marion, tu peux lancer la présentation? J'espère qu'on va y voir quelque chose. Alors, ce matin, je voulais aborder avec vous un thème qui n'est pas trop abordé chez les protestants. C'est plutôt chez les cathos en général qu'on en parle. Vous savez, quand on parle de pénitence. De réparer, de réparation. Et en recherchant sur ce thème, c'est vrai que chez les protestants, on ne trouve pas grand-chose. Il faut vraiment aller fouiller, et encore, il n'y a pas grand-chose. Alors que nos amis cathos seront plus à l'aise pour en parler, pour développer ce thème que je trouve intéressant. Alors la réparation, c'est quoi? Ça consiste en ce que si vous avez fait une offense à quelqu'un, et puis si vous avez décidé de demander pardon, eh bien, vous allez ensuite faire des choses pour réparer ce qui est réparable. Et le challenge pour nous protestants, c'est qu'on a du mal à rajouter quelque chose à un pardon gratuit. Je te pardonne, c'est sans rancune, on est quitte, mais tu vas faire des trucs. Hein? Voilà, tu as fait des choses, Joseph, tu es venu, tu as vandalisé ma maison. Je t'ai pardonné, tu m'as demandé pardon, je t'ai pardonné, par contre, maintenant, tu vas repeindre mes volets. Et là, on sera quitte. Vous voyez, l'idée, c'est que il y a le pardon, il y a la grâce, mais il y a quand même une exigence et un devoir, mais qui n'enlève pas la gratuité du pardon. Et je crois que par peur de ne pas tout mélanger, des fois, on écarte toute cette dimension-là. C'est pour ça que je voulais en parler ce matin avec vous. La doctrine de la réparation n'enlève rien à la gratuité du pardon. À la gratuité du salut. C'est juste un prolongement de la grâce qui a été vécue. Donc ce matin, je vais parler du pardon et de la réparation, parce que déjà dans le pardon, il y a toute une dimension de la réparation qui peut être vécue, qui doit être vécue et qui est intéressante, comme un prolongement de la grâce. Et pour ce faire, je vous invite à regarder en Exode au chapitre 34, les versets 6 et 7. L'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Voilà ce que Moïse peut constater. Dieu fait miséricorde, il est bon, il est fidèle, il pardonne, il conserve son amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire Dieu qui pardonne? Alors, petite question de philo ce matin pour vous, je vous prends à froid. D'après vous, quelle serait la différence entre présenter ses excuses et demander pardon? 2 heures. La différence. Exactement. Alors le pardon, on attend quelque chose. Alors les excuses aussi, quelque part. C'est ça qui est intéressant. C'est que dans les deux cas, que vous présentiez vos excuses ou que vous demandiez pardon, on constate qu'il y a eu une offense qui a été faite. Il y a un mal qui a été fait. Mais la différence, c'est dans la façon de considérer l'offense. Et c'est très utile pour nous de savoir pour ensuite parler de réparation. Alors, excuser en latin, c'est excusa, ex hors de, et causa, c'est la cause. Si vous présentez vos excuses, vous dites à l'autre, je suis hors de cause. Voilà, je te dis une liste d'arguments, d'excuses, pour que tu me mettes hors de cause, pour que je ne sois à aucun moment mis en cause. D'ailleurs, on dit bien, je m'excuse. Je présente des raisons pour lesquelles le mal qui a été fait est excusable. Et j'espère que tu valides mes excuses pour que je sois bien ex causa, hors de cause. Donc, présentez vos excuses. Quand vous présentez vos excuses, vous voulez dire que vous plaidez votre propre cause pour que l'autre puisse reconnaître également que vous êtes bien hors de cause. Alors, Quel est le but de la manœuvre? C'est que si vous êtes excusable, vous n'êtes pas condamnable. Si vous présentez vos excuses et si la personne reçoit vos excuses, si elle valide le fait que vos excuses sont valables, alors il n'y a pas de dette à effacer. Il ne vous a pas acquitté, il a juste dit « J'ai bien compris qu'il n'y a pas besoin de pardon. On n'a pas besoin de nous condamner. » Je prends un exemple. Voilà, Nico, j'espère que tu n'as pas oublié qu'à 14h demain, il faut que tu m'amènes à la gare parce que j'ai un rendez-vous super important. Je dois avoir un client, un budget de 100 000 euros. C'est le truc de l'année, le truc de ma vie. Donc, viens me chercher. Puis le lendemain, je ne suis pas là. Le lendemain, je vous pose un lapin. Personne ne vient. Vous tentez de m'appeler, je ne réponds pas. Puis vous attendez. Puis finalement, vous appelez un taxi, c'est trop tard. Vous loupez votre rendez-vous. Et là, vous pensez à moi, vous vous dites « Ouh là là, je lui taille un costard. » À 100 000 euros, oui. Une heure après, je vous appelle. J'ai deux possibilités. Soit je vous présente mes excuses, soit je vous demande pardon. Et il y a des possibilités, il y a des cas dans lesquels je peux présenter mes excuses, c'est-à-dire dans le cas où je ne serai pas condamnable pour ce que j'ai fait. Par exemple, en venant sur la route, j'ai vu un piéton qui s'est fait renverser. Délit de fuite du coupable, je suis resté à côté de la victime, j'ai appelé les secours, je suis resté à côté pour la sécuriser, donc je n'ai pas pu venir. Je te présente mes excuses, mais je ne te demande pas pardon, parce que c'est un cas de force majeure, c'est une question de vie ou de mort. Et si c'est à refaire, je le referai, mais je te présente mes excuses. Je te présente mes excuses parce qu'il y a quand même eu un tort qui a été fait, je n'ai pas pu t'amener, tu me faisais confiance, mais voilà, si c'est à refaire, je le referai. Vous voyez la différence ? Une excuse, c'est valable, c'est recevable, c'est une situation qui est excusable. Pour autant, on peut être quand même désolé hein, en disant « je suis très embêté pour toi, je suis vraiment très embêté pour toi, je me sens mal pour toi, mais si c'était à refaire, je le referais parce que je pense que c'était une situation excusable. Et je te demande de valider l'excuse et à l'autre de dire ou pas si vous êtes hors de cause. » Et si tu estimes dans cette situation que je suis hors de cause, il n'y a pas de dette, tu ne m'as pas acquitté. Tu as juste dit, il n'y a pas de dette, tu n'es pas condamnable parce que je comprends ce que tu as fait et je reçois ton excuse. Et en ce sens, normalement, si une situation est excusable, il n'y a pas besoin un besoin moral de réparer parce qu'il n'y avait rien de personnel. Vous n'avez pas essayé de tromper l'autre, vous n'avez pas essayé de lui faire du mal. Voilà, ce n'est pas une confiance qui a été trahie. Si l'autre comprend bien, il n'y a rien à reconstruire normalement en termes de relation. Voilà. Parce qu'on a compris que ben là, il y a quelqu'un qui allait mourir, tu es intervenu, je ne peux pas t'en vouloir, tu n'avais rien contre moi personnellement. Encore faut-il que les deux parties soient d'accord pour dire tes excuses sont valables. Donc là, il faut discuter en se moutant de la table et on dit voilà, est-ce que tu penses qu'elles sont valables? Et là, il faut se mettre d'accord, il faut communiquer, beaucoup communiquer pour éviter des réparations inutiles après. Maintenant, prenons le cas où je ne vous ai pas amené à la gare parce que je suis jaloux de votre réussite. Vous m'avez fait confiance, je me suis dit c'est le cas idéal, il a un gros budget, tout va tomber à l'eau. J'ai été méchant, je voulais votre échec, je voulais vous nuire. Vous me faisiez confiance, j'en ai profité. Dans ce cas-là, je citerai un philosophe français, Jacques Derrida, qui dit une phrase paradoxale mais qui nous marque, après pour l'idée de réparation c'est important, le pardon pardonne seulement l'impardonnable. Le pardon pardonne seulement l'impardonnable. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Vous savez, des fois il y a des choses, on dit ça je pourrais pardonner, mais ça non. En général, ça non, c'est parce que c'est pas excusable. Hein. Dans le cas où je ne vous ai pas amené à la gare parce que je voulais vous nuire, ce n'est pas excusable. En fait, vous demandez pardon quand vous n'avez plus d'excuses. Quand vous savez qu'aucune excuse ne serait recevable. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des choses plus faciles à pardonner parce que les choses plus faciles à pardonner sont en fait plus excusables que d'autres. Et pourtant, c'est le début de la réparation. Demander pardon ou accepter de pardonner. Mais si vous en êtes au stade du pardon, c'est que vous pensez qu'il n'y a plus d'excuses et que donc il va falloir aller dans cette optique-là. Ce n'est pas de dire que c'est trop facile, oh tu pardonnes, c'est trop facile. Non, justement, tu pardonnes parce qu'il n'y a plus d'excuses. Ce n'est pas une question que ce soit facile ou pas de pardonner par rapport à une situation. Même si on comprend que c'est trop facile parce qu'on se dit après tout est effacé comme ça, la dette est effacée, mais c'est justement parce que quelque part c'est assez grave. Alors quand vous pardonnez, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là le début de la réparation. Alors encore un peu de latin, ce que vous connaissez bien sûr. Hein, pardonner, dono, veut dire tenir quitte. Vous tenez l'autre quitte. Ça veut dire que vous reconnaissez son offense, mais vous l'acquittez de son obligation, de son droit. Il aurait le droit de se venger. Si je ne vous amène pas à la gare pour vous nuire, vous avez le droit de vous venger normalement. Vous avez le droit de réclamer justice, d'appliquer justice, mais vous me dites, tu ne purgeras pas de peine pour ça, c'est gratuit, on est quitte sans rancune. Et par définition, dans l'idée de réparation, dans tout ce qui suivra, le pardon ne peut jamais s'exiger, puisqu'on pardonne ce qui n'est pas pardonnable, puisqu'on pardonne ce qui n'est pas excusable. Donc en pardonnant, vous dites, voilà Nicolas, je ne me vengerai pas de ce que tu as fait, on est quitte, je te tiens quitte, sans rancune, tu es acquitté. Je renonce au fait que tu dois être puni pour ce que tu as fait. Et c'est sur cette culture de grâce et de gratuité qu'on va poser des actes, non parce qu'on doit les faire, mais parce que c'est un prolongement d'un pardon qui a été gratuit, parce que c'est clair, il n'y avait aucune excuse. Dans ce cas-là, j'ai voulu juste être méchant, je ne peux pas l'excuser. Et en ce sens, toujours dans la culture de réparer les choses, il faut comprendre que même si la personne n'a aucune excuse, elle a une histoire. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les sozos, dans les guérisons intérieures. Les gens ont des histoires, ils ont pris des coups, ils en ont bavé, mais ce n'est jamais une excuse. Mais, on peut au moins comprendre, mais ce n'est pas une excuse. Chacun fait du mieux qu'il peut avec son histoire, avec toutes les choses qui vous ont manqué, toutes les choses voilà, que vous auriez aimé vivre, avoir. Mais c'est pour ça que j'ai pris ce passage où Moïse dit « Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, mais il pardonne. » Il comprend tout, mais il n'excuse pas l'inexcusable. Et dans l'idée de réparer, il y a des situations où il ne faut surtout pas s'excuser. Alors ça fait bizarre de dire ça. Il y a des offenses pour lesquelles il ne faut surtout pas s'excuser, en particulier tout ce qui est abus, trahison, adultère. Ne vous excusez pas. Ça, c'est la pire des choses à faire, parce que vous êtes en train de trouver des excuses, pas de comprendre, hein, mais de dire « c'est excusable ». Comprenez ? Vous êtes en train de dire c'est pas forcément un mal. Je ne peux pas me mettre hors de cause, hein, littéralement. Je ne peux pas me mettre hors de cause d'un viol. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'excuser d'un viol. Là, je dois demander pardon. Je ne peux pas me mettre ex causa d'un abus, d'une situation où j'ai utilisé mon influence, ma force, pour volontairement faire du mal à l'autre. Dans ces cas-là, il faut demander pardon. Mais tenter d'excuser des choses inexcusables et impardonnables, des choses terribles, vaut mieux pas. Vaut mieux dire, écoute, je te demande pardon, je regrette, j'ai mal agi. Présenter ces excuses quand c'était un mal volontaire, c'est compliqué. Parce que vous allez tenter d'expliquer. Ah, tu sais, tu m'as fait du mal, je te l'ai bien rendu, mais c'est parce que tu m'as cherché. Non, vous ne présentez pas vos excuses, ni vous pardonnez là. Vous comprenez ? C'est ça le problème. Le problème, c'est que si vous tentez d'excuser l'inexcusable, vous allez tenter de dire que c'était pas si mal que ça. Voilà, écoute, j'ai abusé de toi, mais il y a bien une excuse. Non, il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas excuser ça. Ce n'est pas excusable, donc il va falloir le pardonner. Et en ce sens, je ne sais pas si je suis clair là. Je suis clair. Et en ce sens, toujours dans l'idée de réparer, il faut du coup éviter les phrases du type, mais c'est tentant de les dire, moi je peux la dire aussi souvent, pardonne-moi si je t'ai fait beaucoup de mal, parce que le si fait que vous doutez de la douleur que vous avez pu faire chez l'autre, et donc il peut se dire, mais il doit le reconnaître, c'est la moindre des choses. Mais s'il demande pardon pour quelque chose dont il n'est même pas sûr d'être hors de cause, c'est compliqué. Parce que d'une part, vous doutez du mal que vous avez fait, et au lieu de mettre l'accent sur la douleur que vous avez commis vous, enfin, c'est-à-dire sur le tort à vous, votre tort à vous, vous mettez l'accent sur la douleur de l'autre. Mais ça, il le sait. Hein. Pardon si je t'ai brisé le cœur, mais lui, il le sait que lui a brisé le cœur. Ce qu'il a besoin d'entendre, c'est que vous, vous avez fait une grosse bourde. Et c'est ça qui est important. Et puis, il y a aussi l'option, j'ai déjà entendu ça, peut-être vous aussi, ça c'est vous pardonner en pardonnant les autres. Ça c'est un truc un peu entre les deux. Écoute, pardonne-moi si tu n'as pas compris mon message de ce matin. Vous voyez, un peu l'hybride. Écoute, je suis désolé si tu n'as pas eu l'intelligence de comprendre ce que j'ai voulu partager ce matin. Pardonne-moi si tu n'as pas compris que j'ai voulu t'aider. Pardonne-moi. En fait, vous êtes en train de le pardonner. Et si vous partez sur le fait d'excuser des choses inexcusables, et si vous partez sur le fait de pardonner l'autre alors qu'il n'est même pas au courant d'une histoire ou autre, ça va compliquer, parce que là, il y a déjà la réparation dans le pardon. Il y a déjà la réparation. Alors, le pardon implique qu'il n'y ait pas d'excuses bidons, pas de superflu. C'est assez sobre, en fait, le pardon. Hein. C'est quelque chose d'assez sobre. On n'en fait pas des tonnes. Il faut de la sobriété. Voilà, pardonne-moi, j'ai eu tort de faire ça, je regrette. Et puis ça, après, ça doit susciter des échanges pour se comprendre, pour rebâtir la confiance. C'est pour ça qu'on voit dans le passage que j'ai cité, hein, Dieu qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché. Il pardonne, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Lui, il comprend votre histoire, mais le mal, c'est le mal, il va le condamner. Mais vous, il va vous comprendre, il ne va pas excuser ce qui est excusable, mais il punit le coupable. Et c'est un pardon qui intervient devant ceux qui n'ont aucune excuse. On est venu devant Dieu, devant Jésus, devant son sacrifice, on n'avait pas d'excuse. Sinon, on ne serait pas venu devant lui. Et ce que l'humanité a fait est tellement inexcusable que Jésus a dû le payer très cher, ça. C'est ça l'idée. Il va le payer plein pot. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'était tellement inexcusable ce qu'on a fait que quelqu'un a dû être puni. Et c'est Jésus qui a été puni à notre place. Et là, on a la manifestation du pardon de Dieu. S'il y avait la moindre excuse, il ne serait pas allé sur la croix. Mais il n'y a pas d'excuse, donc on vient vers lui. « J'ai aucune excuse à te donner, je te demande pardon. » Et lui, il nous répond « Je te pardonne. » Et ce que nous montre ce passage, c'est à quel point Dieu veut réparer les relations, parce que si Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, là on voit quoi ? On voit qu'il n'est pas là pour chercher un bouc émissaire. Dieu n'est pas un chasseur de primes. Il ne va pas vous traquer pour vous mettre en prison. Peut-être que c'est la première fois que tu viens à l'église ce matin. Peut-être que tu ne connais pas Jésus personnellement, mais il n'est pas à la recherche d'un bouc émissaire. Ce n'est pas le chasseur de primes. Il sait que tu as fait du mieux que tu as pu avec ton histoire. Il sait tout ce qui t'a manqué. Il connaît ton histoire, mais il te tend un rameau d'olivier. Voilà, mon fils est mort pour toi. Si tu l'acceptes, tu seras acquitté gratuitement. C'est la grâce. Et pour nous qui voulons imiter Dieu, on comprend deux choses. C'est qu'on ne cherche pas à juger. Dans une situation problématique où il y a eu de l'offense, le but, ce n'est pas de trouver un bouc émissaire. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de réparer, c'est de guérir. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, mais ici, il nous montre qu'il n'est pas venu pour nous détruire. Il est venu pour réparer ce monde. Et on voit déjà dans le pardon toute la dimension de la réparation. On est appelé à être des artisans de paix. On est appelé à avoir des cœurs guérir, des relations restaurées. Et on comprend l'intention de Dieu qui, lui, veut réparer ce monde. Vous voyez ? Il y a eu une offense, ok, il a géré le problème, il a pris sur lui, il a puni. Jésus a été puni pour nos fautes. Et en ce sens, on ne doit jamais excuser le mal quand il est volontaire, quand il est vraiment ce péché-là. Parce que tant que vous l'excusez, vous ne reconnaîtrez jamais votre blessure. Et donc, vous ne guérirez pas. Ça encore, on l'a vu des centaines de fois ici, pour les gens qui sont venus, pour tous ces besoins de guérison intérieure. Parce qu'il y a une tentation, c'est d'excuser le monde entier. Ah, oh, mais lui, c'était difficile, c'est normal. Il a une enfance tellement difficile que je l'excuse. Non, ce n'est pas excusable ce qu'il t'a fait là. Tu ne dois pas l'excuser, sinon tu ne guériras pas. Et en même temps, on peut comprendre son histoire, mais ce n'est jamais une excuse. Il ne faut jamais excuser ce qui est inexcusable. Et cette croix-là, cette souffrance qui a été portée, c'est tout l'inexcusable. C'est tout l'impardonnable. Et parfois, ce qui aide dans des situations où c'est un proche qui nous a fait du mal, c'est de d'abord reconnaître peut-être ses bons côtés aussi, pour ensuite reconnaître que finalement, il y a eu des aspects qui n'ont pas été si bons que ça, et mettre les choses en perspective pour bien montrer qu'on n'est pas là pour condamner quelqu'un. Il y a toujours du bon et du mauvais. Mais si on veut reconnaître une offense, on peut aussi reconnaître ce qui a été bon dans ma vie. Ben voilà, il a pourvu pour moi, il a fait ces choses. Mais là, ce n'était pas juste, là j'en ai souffert, je le reconnais. Mais ça peut nous aider aussi de reconnaître le bien pour mettre les choses en perspective et pour comprendre que le but, ce n'est pas de trouver un bouc émissaire et de le condamner et de l'exécuter. Le but, c'est qu'on puisse nous guérir des relations qu'on a les uns avec les autres. Donc dans l'optique de la réparation, il faut bien distinguer déjà l'excuse du pardon. Vous voyez, il ne faut pas excuser des choses qui ne sont pas excusables. C'est-à-dire, quand il y a un pardon, il y a un pardon, et puis c'est tout. Mais quand c'est excusable, il faut plaider sa cause aussi. Parce qu'il faut se comprendre, il faut communiquer. La réparation, c'est tout ça. Communiquer, se comprendre, savoir pourquoi les choses ont été faites, comprendre si ça a été volontaire ou pas, si on a cherché à nuire à l'autre ou pas, et ensuite réparer les relations. Et ce qui est intéressant dans l'Ancien Testament, c'est que vous aviez le sacrifice pour le pardon des péchés, sacrifice d'expiation, c'est-à-dire votre dette est effacée, vous avez fait une bourde, Dieu vous pardonne, mais il y avait aussi le sacrifice de réparation. Alors, j'aimerais en dire quelques mots avant de conclure. Et le sacrifice de réparation, on le voit en Lévitique 7. Voici la loi concernant le sacrifice de réparation. C'est une chose très sainte. On égorgera la victime du sacrifice de réparation au même endroit que l'Holocauste et on l'aspergera de son sang tous les côtés de l'autel. On en offrira toutes les parties grasses, c'est-à-dire la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, les deux rognons, la graisse qui les enveloppe et celle qui couvre les flancs, ainsi que le lobe du foie qu'on enlèvera avec les rognons. Et le verset 5 qui nous intéresse, le prêtre les brûlera sur l'autel. C'est un sacrifice de réparation consumé par le feu pour l'Éternel. Tous les hommes faisant partie des prêtres pourront en manger. Ils le feront dans un lieu saint car c'est une chose très sainte. Alors vous voyez, vous allez vers Dieu, vous amenez votre sacrifice pour le pardon des péchés. Vous êtes blanchi. On va dire, mais pourquoi on amène un autre sacrifice pour la réparation? En quoi ça rend le monde meilleur? Je veux dire, ça y est, la dette est effacée. C'est pour ça que j'ai pris le cas tout à l'heure de repeindre mes volets pour réparer quelque chose. Si la dette est effacée, ça veut dire que réparer ne veut pas dire effacer la dette. Mais pourquoi amener encore un animal devant Dieu? À quoi ça sert? Alors, ça ne consiste pas à purger la peine pour nos fautes. Et là, on est différent de nos frères catholiques avec la pénitence. Quand vous réparez quelque chose, ce n'est pas pour purger votre peine. Ce n'est pas parce que vous êtes puni. Ce n'est pas une punition, voilà. Dans le verset d'Ésaïe qu'on a lu, Jésus a été puni. Ça, c'est la punition. Il a purgé sa peine. Réparer, ce n'est pas vivre la punition. Mais ce que j'ai noté dans ce passage, c'est que le sacrifice de réparation, il est fait pour Dieu. Il est consumé pour l'Éternel. On va se dire, bon, qu'est-ce qu'on va réparer chez Dieu? A priori, pas grand-chose. Mais ce sacrifice, il est consumé pour l'Éternel. Parce qu'en réalité, en apportant ce sacrifice, vous vous replaciez devant Dieu. Vous vous replaciez à la bonne place. Pour comprendre que la réparation, c'est d'abord se réparer soi-même. La réparation, c'est d'abord se réparer soi-même. Vous vous replaciez devant Dieu, vous êtes seul face à lui. Il y a un animal qui est mort pour cette réparation-là. Et voilà, vous avez besoin d'être réparer. C'est la base de la réparation, c'est qu'avant d'aller sauver le monde, vous avez besoin de guérison. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre dans la culture de la réparation. N'allez pas sauver le monde, d'abord vous-même avec Dieu. En vous replaçant devant Dieu, vous posez un acte qui va vous aider à passer le cap. Parce que la vérité, c'est que si vous avez été acteur du péché, vous en êtes aussi victime. et que tant que vous ne guérissez pas vous-même, ça va être compliqué ensuite d'aller voir les autres. Je ne dis pas qu'il faut être parfait pour le faire, hein, mais on se replace devant Dieu, on offre ce sacrifice, on réfléchit, et là on a un Dieu qui nous répare. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est la grâce. Il vous a pardonné et il vous demande un tête-à-tête avec lui dans cette réparation. Approche-toi, on va discuter. Il y a des choses là qu'il faut revoir ensemble. On a besoin de lui pour savoir comment réparer les situations. On a besoin de lui pour savoir comment gérer les relations après une offense. Parce qu'en réparant, il faut bien comprendre qu'on est le sauveur de personne. On ne peut pas sauver les gens. On ne peut même pas se sauver nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui répare le monde. Il sait très bien le faire et lui, il va vous aider à le faire. Mais il va vous amener devant lui et vous allez discuter avec lui. Mon fils, ma fille, on va discuter tranquillement de ce qui s'est passé. Il va falloir que tu guérisses toi. Ne pars pas entre hommes comme ça, sur les chapeaux de roue. Discutons et guérissons. Deux dernières choses sur la culture de la réparation, qui peuvent paraître évidentes, mais il y a certains petits malins qui essaient de trouver toujours des vices de forme. L'Éternel parla à Moïse en disant, « Lorsqu'un homme se rend coupable de désobéissance à l'Éternel en péchant contre son prochain, s'il le trompe au sujet d'un objet reçu en dépôt, prêté ou volé, lui extorque quelque chose, dit un mensonge concernant un objet perdu qu'il a trouvé ou prête un faux serment au sujet d'un méfait comme ceux dont les hommes peuvent se rendre coupables, il a commis une faute, il est coupable. Il rendra ce qu'il a volé ou extorqué, l'objet qui lui a été confié en dépôt ou l'objet qui a été perdu qu'il a trouvé, ou tout objet au sujet duquel il a prononcé un faux serment, il le restituera intégralement. » Ça peut paraître banal, mais c'est le passage qui dit tout. Ce n'est pas parce qu'il y a eu pardon qu'il ne va pas falloir rendre les choses. Et je disais, j'ai déjà vu des situations où il y a des petits malins qui avaient volé quelque chose et ils se demandaient s'il fallait le rendre. Ils avaient demandé pardon. Et toi, il faut le rendre. Oui, il faut le rendre. Mais ça, c'est l'humanité. Hein. Ah, il faut le rendre. Oui, mais il a demandé pardon. Je pensais que c'était OK. Oui, mais là, il y a quelque chose que tu peux réparer, fais-le. Si tu peux le faire, s'il y a quelque chose de réparable, si l'autre l'accepte aussi, il peut dire, bon, écoute, c'est bon. Mais au moins, tu lui proposes. Tu lui dis, écoute, c'est la moindre des choses. Et c'est pour ça que je dis que c'est le passage qui dit tout. Votre offense peut laisser des traces. Et même si vous êtes acquitté à 100%, faites ce que vous pouvez pour réparer. Et puis une dernière chose. Et il y ajoutera un cinquième de sa valeur par rapport à ce vol. Il le remettra à son propriétaire le jour même où il se reconnaîtra coupable. À titre de réparation envers l'Éternel, il amènera au prêtre un bélier sans défaut, choisi dans le troupeau d'après ton estimation, pour le sacrifice de réparation. Le prêtre accomplira le rite d'expiation pour lui devant l'Éternel et il sera pardonné ce dont il s'est rendu coupable. Vous donnez même plus que ce que vous avez piqué. Un cinquième. Vous avez piqué telle somme, tel objet, vous allez rendre un cinquième de plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous donnez de la visibilité à l'autre. Vous lui dites « je suis vraiment sincère » et vous le posez un acte. Parce que les paroles, c'est les paroles, on connaît tous les blabla. Vous posez un acte devant l'autre en disant « je suis vraiment sincère et je l'acte ». Eh bien, tu sais quoi, je te donnerai même plus que ce que je t'ai pris. Pourquoi ? Parce que dans la culture de réparation, vous voulez redonner confiance à l'autre. Alors lui, il a vraiment compris parce qu'il m'a même donné plus. Il allait au-delà de l'offense. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu vulnérable vis-à-vis de l'autre. Et j'insiste, hein, la réparation ne consiste pas à être puni. Ce n'est pas une punition de faire ça. C'est de montrer que vous vivez la grâce, que vous vivez le pardon. Et quelque part, vous faites fructifier cette grâce. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est peut-être pour ça qu'en protestantisme, on ne parle pas trop de réparation, parce qu'on parle souvent de ce qui est gratuit, mais il y a des devoirs, on a un devoir moral vis-à-vis de l'autre dès qu'il y a une offense. Ça n'enlèvera rien au fait que le pardon est gratuit, mais si une personne a commis un mal, et si elle ne montre pas qu'elle s'est repentie, il y a vraiment un problème. Et là, on peut ajouter une exigence à la grâce gratuite. Je prends un exemple. Je sais pas, dans une église, un jeune homme qui va draguer toutes les femmes. Voilà, il fait le kéké, il va voir toutes les femmes de l'église, tout ça. Et un jour, il dérape, il se repent et il va voir les responsables. Ok, tu te repens vraiment, tu as l'air sincère. On te demande pas d'expier ta faute, on te demande pas de purger ta peine. tu es acquitté 100%. Maintenant, s'il revient et qu'il continue avec son comportement de Don Juan, qu'est-ce qui va se passer? Ça va poser un gros problème parce qu'il ne va pas nous aider à lui faire confiance. Donc, on peut aller le revoir. Écoute, calme-toi, il faut que tu montres que tu t'es repenti. Il le faut. Tu dois nous re... C'est un devoir, en fait, moral. Ça n'enlève rien au pardon gratuit, mais tu dois rebâtir la paix et la confiance. Ce n'est pas parce qu'on t'a pardonné que tu as tous les droits. Au contraire. Et puis, si la personne ne comprend pas, ben, bye bye. Écoute, si tu veux faire du mal aux autres et que tu ne veux pas montrer que tu t'es repenti, il y a un problème. Parce que le pardon, c'est demander pardon, mais la repentance, c'est changer de comportement. Vous voyez? Et de se dire, écoute, si tu as vraiment compris la bourde que tu as faite, tu vas réparer les choses. Et réparer, ça ne veut pas dire que tu vas donner de l'argent, ça ne veut pas dire que tu vas faire des tas de choses. C'est au moins que tu montres que tu as compris, que tu prends quelques distances, que tu réfléchis, que tu vas entreprendre des choses pour aller mieux et pour être un artisan de paix. Alors évidemment, chaque situation de réparation s'incarne différemment. Elle suppose un rythme, elle suppose de prendre le temps. Mais elle suppose aussi des efforts, non pour purger cette peine, mais pour montrer à l'autre qu'il peut avoir confiance à nouveau. Progressivement, on ne l'exige pas non plus. Et sachant que si vous aidez l'autre, vous vous aidez vous-même, parce que Dieu sera à l'œuvre. Si vous aidez l'autre à avoir confiance, vous vous aiderez vous-même, parce que Dieu sera à l'œuvre. La réparation, elle va vous demander d'être courageux. Ça, c'est l'appel au courage de temps en temps dans l'Église. Soyez courageux et n'hésitez pas à réparer ce qui est réparable. Elle vous demande d'être un artisan de paix. Elle vous demande de rechercher cette culture de l'honneur en recherchant l'intégrité physique et spirituelle de l'autre. La bienveillance. Si quelqu'un reçoit le pardon, demande et reçoit le pardon, mais qu'il ne montre pas sa repentance, il va y avoir un problème. Je ne dis pas que ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pardonné. Je dis que on peut s'attendre à certaines choses. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas avoir peur des redevabilités. Ce n'est pas parce qu'on est dans une culture de grâce qu'on va être forcément dans la loi légaliste. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens, il faut que tu comprennes, même toi, il faut que tu sois plus heureux, il faut que tu comprennes avec Dieu qu'on est tous en chantier, qu'on est tous en train d'évoluer et que ton comportement, il doit suivre. Et on prendra le temps. Pour moi, l'indicateur capital, c'est au moins essayer. On ne demande pas à ce qu'il soit parfait, mais au moins tu essayes. C'est tout ce qu'on te demande, parce que c'est la vie chrétienne. Mais ça n'enlève rien au pardon gratuit, ça n'enlève rien à la grâce, ça n'enlève rien à la patience. Il pourra demander pardon à Dieu, Dieu lui pardonnera toujours. Mais juste un petit peu cette exigence-là dans la réparation. Quelqu'un qui essaye, c'est déjà courageux, c'est déjà héroïque dans un monde sans honneur. Réparer, ce n'est pas non plus tenter de sauver son propre honneur vis-à-vis de l'autre en voulant se justifier à tout bout de champ. Dieu lavera votre honneur. Si vous vous réparez, si vous êtes dans la culture de réparation, il lavera votre honneur. Il le fait sans honte, il l'assumera pleinement. Réparer, c'est aussi quelque chose à faire avec des conseillers. Entourez-vous, entourons-nous de gens qui pourront nous dire tu fais trop, tu fais pas assez, tu devrais faire quelque chose, non, là tu devrais t'écarter. Et réparer, c'est aussi veiller à ce que l'autre ne vous fasse pas payer l'addition. Parce qu'il y a des gens, après le pardon, il faut continuer de payer. Et là, il faut aussi se faire grâce à soi-même. Réparer, c'est aussi se réparer soi-même. Écoute, tu m'as pardonné, et voilà, maintenant, je vais pas venir tous les week-ends réparer ta voiture, quoi. Réparer, c'est souvent poser des petits actes, des petites intentions, une bonne odeur pour redonner confiance. Et ça implique notre créativité, nos bonnes idées. C'est pour ça que je ne suis pas très précis dans certains exemples, mais c'est notre créativité. Comment vous pouvez réparer, comment vous pouvez redonner confiance à quelqu'un? C'est à nous d'agir, c'est à nous de le penser avec Dieu, devant lui. C'est vraiment avec lui qu'on est dans cette optique-là. Et puis, réparer, c'est parfois aussi prendre des distances quand l'autre a eu trop mal. On veut absolument aller vers l'autre, mais des fois, c'est l'inverse qu'il faut faire. Vous savez, quand Dieu dit à Moïse, laisse-moi, je suis en colère, puis que Dieu, Moïse va lui courir après. Mais voilà, entre nous, je ne sais pas si ça marcherait. Si quelqu'un vous demande, laisse-moi, là, j'ai besoin de temps, ben là aussi, il y a une réparation dans le fait que vous respectiez son temps dans lequel il va réfléchir. Réparer, c'est aussi laisser respirer. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est aussi laisser respirer l'autre dans un espace de culture, de cette culture de grâce, être disponible, aimer, et d'être face à ce Dieu qui répare les cœurs et qui répare le monde constamment. C'est sa spécialité. Alors, ça peut prendre du temps parfois, et je vais conclure, mais ça ne doit pas nous décourager. Parce que dans la réparation, il y a un privilège énorme. C'est que parfois, on passe la plus grande partie de sa vie à ne pas dire ce qu'on veut dire. Parfois, on attend le dernier moment pour dire certaines choses. Et on passe beaucoup de temps à ne pas dire ce qu'on veut dire. Quand on répare, on peut dire les choses. Et ça, c'est un privilège. La réparation est un espace de grâce dans lequel Dieu nous appelle à l'imiter en parole et en actes dans cet amour-là. Et on va poser des pierres petit à petit dans un édifice qu'on ne va pas nous-mêmes reconstruire, mais que Dieu va prendre en charge. Alors pour terminer, je vais prendre une image. Je ne sais pas si vous connaissez, près d'Arles, il y a l'abbaye de Montmajour. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Un magnifique lieu qui est aux portes de la Camargue. Alors pour un amoureux de la Camargue comme moi, c'est génial. Et j'ai visité ça il n'y a pas longtemps. C'est un lieu qui a été construit au Xe siècle par des moines bénédictins. Et ils sont venus près d'Arles construire cette abbaye. C'est énorme, c'est dans tous les sens du terme. Et c'est grand, c'est vaste comme projet, avec les statues, les sculptures, les tours. Chaque pierre a été calculée, placée, portée, les lieux de culte, les lieux de recueillement, les lieux où tout a un sens, hein, vous savez, dans ces lieux catholiques où tout aura un sens par rapport aux rites et aux cultes. Et en lisant un petit peu l'histoire de l'abbaye, il y a quelque chose qui m'a interpellé quand je parlais de réparation, c'est que c'est souvent des générations après qu'on voyait le résultat. Et pour cette abbaye, ben, y a des moines qui étaient venus, ça et là, une saison, un moment, des pèlerins de passage qui posaient une pierre, qui repartaient. Et les catholiques s'inscrivent plus facilement peut-être dans l'histoire que nous, parce que pour eux, si on venait poser une pierre qu'on repartait, c'était pas grave si on voyait pas la fin. Toute la joie, toute la beauté, tout ce qui était chouette, c'était le processus de participer à une construction qui était magnifique. Et beaucoup n'ont pas vu la fin de l'histoire. Beaucoup de pèlerins sont venus une fois, sont repartis, et puis ils n'ont plus jamais revu le lieu. Mais la beauté, c'était de participer à une œuvre qui les dépassait, qui était pour Dieu, hein. Attention, c'est l'abbaye. C'est la maison de Dieu. Et ça, c'était extraordinaire. Et quand je disais ça, je me disais, mais la réparation, quelque part, ça nous demande ce recul. Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça prend une vie. Mais la joie, la beauté se trouve dans le fait que vous allez poser peut-être juste une pierre, juste quelque chose d'éternel dans la vie de l'autre. Et on a vu tellement de personnes dans les sozos vivre ces réconciliations, vivre ces choses, recevoir ces pierres. Et croyez-moi, quand ça se passe, ça fait un drôle de frisson. Quand quelqu'un vit cette réconciliation, cette réparation, cette confiance rebâtie, c'est extraordinaire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre pour terminer cette image de cette abbaye qui a pris du temps pour être construite. Il y a des gens qui sont venus, qui sont repartis, il y a eu des saisons, des temps de formation. Mais on pose, nous, des pierres, ça et là, pour des réparations, pour bâtir, pour rebâtir des édifices éternels, en fait. Et croyez-moi, Dieu s'en souviendra. J'en ai terminé.